Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages, pour la parution d'un duo d'auteurs, Pierre Pascalon et Pascal Hortefeux, avec un titre qui ne manque pas d'interpeller, « Hier la crise, demain la guerre ». La crise va-t-elle amener le monde au bord du gouffre, chez l'Harmattan, pour 28 euros et 281 pages. Donc, c'est le professeur Pierre Pascalon qui va représenter ce duo d'auteurs.
Bonjour.
Bonjour, monsieur le professeur. On est heureux de vous accueillir. Alors, je vais revenir tout à l'heure un petit peu sur votre parcours. Mais avant toute chose, je voudrais vous dire qu'effectivement, ce sujet, hier la crise, donc la sortie de crise, a été particulièrement pensé par les économistes. Un certain nombre d'élucubrations se sont fait jour, des scénarios qui vont des reprises rapides, plus ou moins optimistes, en L, en V, en U. Mais par contre, on n'avait pas encore à ce jour, me semble-t-il, imaginé ce scénario qui est celui que vous avez avancé, que vous avez osé avancer, demain la guerre.
Alors la guerre économique. Point d'interrogation, si vous permettez.
Avec un point d'interrogation, mais avec toutefois, la guerre a été évoquée par les économistes, mais l'autre guerre, la guerre économique, notamment sur le protectionnisme, etc. Alors on va revenir sur ce sujet, mais avant toute chose, je voudrais rappeler un peu votre parcours. Donc vous êtes professeur à la faculté des sciences économiques et sociales de Clermont. Depuis 1970, vous êtes agrégé de sciences économiques. Vous êtes donc un auteur confirmé. Vous avez été longtemps un élu politique. Vous avez eu des différents mandats nationaux, notamment celui de maire au niveau régional et de député.
Oui, deux fois
député. Et vous avez une grande sensibilité pour les sujets de défense, dont vous étiez à un moment donné, j'imagine, dans les commissions de rapporteurs. Ou enfin, en tout cas, vous êtes très, très spécialisé sur ce sujet, ce qui d'ailleurs peut-être nous permet de revenir sur votre titre.
Car c'est... Oui, c'est effectivement, j'ai commencé à me passionner davantage pour les problèmes de défense, si vous permettez. J'étais à la commission de la défense,
à l'Assemblée nationale. À la commission de la défense.
Et c'est par là que je suis arrivé à m'intéresser davantage aux préoccupations militaires.
D'accord. Venons-en sur maintenant le cœur du sujet. La crise va-t-elle amener le monde au bord du gouffre? Mais première question, bon, vous faites une analyse des circonstances, du pourquoi on en est arrivé là. Qu'est-ce que vous retenez en quelques mots de ce diagnostic de crise? On en est arrivé là, pourquoi?
Bien, écoutez, je suis très sensible à une interprétation de la réalité d'aujourd'hui en me servant de l'histoire. Plus particulièrement, ici, on y sera sensible, Braudel, de grands auteurs de ce type, qui semblent nous dire qu'il y a des permanences dans l'histoire de l'homme, à toute époque, permanences qui sont dynamique du progrès technique, dynamique de l'instabilité et des déséquilibres. Et ces dynamiques, on les retrouve encore dans le capitalisme d'aujourd'hui, nous disent-ils. Et c'est dans cet esprit que je propose une interprétation des déséquilibres et de la crise que nous avons vécue, que nous continuons à vivre. Plus particulièrement, si vous permettez, je m'appuie sur des travaux d'économistes tels que Schumpeter qui pensent qu'il y a forcément dans la dynamique du capitalisme des évolutions cycliques. Des évolutions cycliques et le cycle qui paraît le plus important est reconnu à peu près aujourd'hui par tous les économistes ou presque et les historiens, c'est le cycle long Kondratiev, un économiste russe qui semble avoir prouvé entre guillemets qu'il y a l'évolution du capitalisme est scandée par des cycles longs de 40 à 60 ans. Il y aurait eu dans le passé, 19e, 20e siècle, quatre cycles longs. Et je prétends, et j'ai été un des premiers, si vous permettez, à soutenir cette thèse, que nous sommes dans un cinquième cycle long. Sa phase ascendante aux États-Unis, puisque c'est surtout sur l'économie dominante que se jouent ces cycles, la phase ascendante, très schématiquement, 1990 à la crise, 2007 et 2008, et après la phase ascendante, la crise, le pic 2007-2008, et surtout les mois de septembre-octobre 2008, nous sommes malheureusement avec la phase descendante, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Après être monté, il faut descendre. J'allais presque dire que c'est une logique implacable. Et je prétends que nous sommes malheureusement, et c'est ce qui fait nos difficultés dans cette phase descendante qui risque, 20-25 ans de hausse, 20-25 ans de baisse, de nous amener jusqu'aux années 2030.
Oui, alors donc ça, c'est votre schéma de sortie de crise, hein, donc qui s'appuie sur cette logique. Ce qui veut dire que dans le meilleur des cas, on est engagé sur une croissance molle pendant une vingtaine d'années, sensiblement, hein, au terme
oui, de ça. Oui, on peut le penser, on peut le craindre. Je crois que beaucoup, initialement, j'ai commencé à avancer ces thèses il y a tout à fait dans la crise, si je peux dire. On m'a traité de pessimiste, etc. Je crois que beaucoup maintenant reconnaissent que malheureusement, nos pays sont, on peut le penser, engagés dans un processus de croissance faible, molle. Un petit peu sur le scénario japonais qui revient beaucoup à la mode. Vous savez, le Japon a connu une croissance faible et molle des années 90-2000. Il semblerait malheureusement que nous soyons un peu dans la même logique. Et je crois que lorsqu'on y réfléchit, c'est assez vraisemblable, si vous permettez, deux choses. Du côté du privé. Le privé, je crois, ne peut plus espérer l'endettement tel qu'on l'a fait dans la décennie 90, surtout aux États-Unis. Vraiment, un endettement considérable du secteur privé, un gonflement de la dette. Ça, je crois que c'est, Dieu merci, je dirais presque derrière nous. Et du côté du public, le public, j'allais presque dire, a fait tout l'effort qu'il pouvait faire, les plans de relance, etc. Et on voit bien aujourd'hui que l'endettement aussi, du point de vue du public, est, j'allais presque dire, à son terme. Et donc, tant du côté du privé que du côté du public, la dynamique n'est plus là, me semble-t-il, pour tirer véritablement la croissance et retrouver une grande croissance telle qu'on pouvait l'imaginer.
Donc un monde plat d'une croissance molle. Mais alors ce monde, en 2000, vous le décrivez parfaitement lors d'une construction personnelle à la page 199, où vous montrez l'hyperpuissance américaine et puis le pôle de l'autre côté, Asie, Chine, Japon, Russie, les briques entre autres. Et par contre, vous projetez à l'horizon 2030 et vous décrivez, selon votre scénario, ce que sera ce monde en 2030. Et à partir de là, je pense que c'est bon que vous nous en disiez un mot, parce que on va trouver ensuite l'explication à travers le passage de ce monde de 2000 au monde de 2030 que vous décrivez, les risques que vous décrivez, avec un point d'interrogation, demain la guerre. Donc alors ce monde de 2030
Ce monde de 2030, il est en première analyse assez similaire, on peut le penser, il pourrait être assez similaire au monde des années 2000. Sauf que l'hyperpuissance aura changé. En 2000, nous le savons, c'est à peu près le sommet, on peut dire, de l'hyperpuissance américaine. Tout le monde en est d'accord maintenant. Et après, tous les signes de cet effritement américain démarrent, j'allais presque dire, tant sur le plan militaire que précisément sur le plan économique, puisque la crise, je pense, 2007-2008, c'est avant tout à lire comme la crise du capitalisme américain, du capitalisme financier américain, pour faire bref. Et donc, les années 2000, le sommet de l'hyperpuissance américaine. On peut penser qu'ensuite, et on y est, me semble-t-il, on a un déclin relatif de cette puissance américaine et corrélativement la poussée des puissances émergentes, et plus particulièrement de la Chine, qui pourrait normalement, si on prolonge les deux courbes, la Chine se retrouver en 2030 à l'équivalent ou presque des années 2000 comme l'équivalent de l'hyperpuissance pour cette époque. Voilà un petit peu un schéma un peu mécanique, je le reconnais, mais qui paraît assez logique dans l'explication de, encore une fois, des cycles.
Ça, c'est le point, je dirais, d'atterrissage. Mais entre-temps, ce que vous dites et qui me paraît très, très pertinent, c'est qu'il y aura, aux alentours des années, à quelque chose près, bien entendu, des années 2025.
Oui, c'est Madison qui prétend que c'est la date la plus explosive. D'accord. Les deux courbes voilà. Se coupent là.
Ce fameux croisement explosif entre les États-Unis et la Chine, avec donc d'un côté l'ex-hyperpuissance qui commencera à être manifestement dans un point d'inclinaison de perte de puissance, et puis en sens inverse, donc le croisement avec une Chine qui, elle, à ce moment-là, atteindra le point de puissance américaine. Et donc là, vous en déduisez que c'est à ce moment-là que le risque maximum, en quelque sorte, pourra apparaître. Alors, sous quelle forme ?
Oui, comme je vous le laisse à penser, c'est une construction qui n'est pas spécifiquement de moi.
Non, bien sûr. Bruce
Madison l'a déjà prétendu, avec, si vous permettez, une accélération de tout ça par rapport aux projections passées, où on voyait les choses beaucoup plus tard, 2040, voire 2050. La crise a accéléré, semble-t-il, pour la majorité des auteurs, a accéléré ces processus. Et c'est maintenant, comme vous l'indiquez, autour de 2025 que le risque sera majeur. Et Madison, qui le prévoyait, je vous le dis, 2040, voire 2050, est maintenant sur cette date. Déclin relatif des États-Unis, poussé de la Chine. Et c'est vrai que les deux courbes se croisent là et c'est le moment le plus explosif. Et je crois qu'on est avec des arguments, malheureusement, pour confirmer, malheureusement, peut-être ce risque. On voit bien que la Chine est dans un processus de poussée, me semble-t-il, assez irréversible, et que les États-Unis, de leur côté, sont dans un déclin relatif, me semble-t-il, aussi irréversible. Et pourront-ils accepter de voir leur hégémonie comme ça remise, j'allais dire, pour de bon en cause, après le siècle américain? Je crois que c'est toute la grande question qui est devant nous.
Alors, justement, sur ce plan, commençons par regarder, venons sur votre terrain de prédilection, qui est celui de la défense, et donc des aspects géopolitiques et stratégiques. Et en vous posant la question, qu'est-ce qui pourrait advenir si le scénario le pire était susceptible d'apparaître? Donc, en matière de prolifération nucléaire, on a atteint des niveaux que vous allez nous rappeler, mais qui sont absolument... on pourrait détruire à ce jour 3 ou 4 fois la planète sans aucun problème. Et donc, il y a ce risque-là. L'autre théorie, c'est de dire, mais compte tenu de ce niveau de dissuasion respectif, le risque d'utilisation de l'arme nucléaire est faible. Et vous posez là aussi un point d'interrogation sur cette certitude, plus ou moins partagée.
Oui, si vous permettez, je crois qu'effectivement, on ne peut pas éluder, une fois qu'on a présenté un risque possible de guerre, on ne peut pas éluder le fait que désormais, depuis 1945, nous le savons bien, ce risque est dans un univers nucléaire. Et donc, je me suis posé en dernière partie de cette réflexion ce sujet de savoir est-ce que cette guerre est possible dans cet univers qui est désormais un univers nucléaire. Et je me suis demandé si, effectivement, d'abord en 2030 ou 2025-2030, il y aurait encore du nucléaire militaire. Bien sûr, on ne peut pas ne pas se poser cette question vis-à-vis de tous les efforts, on le sait, notamment du président Obama, pour essayer d'aller le plus loin possible dans le cadre du désarmement nucléaire. On va encore le voir, ce qui va se passer en matière de traité de non-prolifération nucléaire, là, sur le mois, là. Nous sommes au cœur de l'actualité.
Tout à fait.
Au cœur de l'actualité. Et donc, je prétends et j'essaie de le prouver que, malgré tous ces efforts, en 2030, encore, le nucléaire militaire sera présent. Je pose l'idée de la pérennité du nucléaire militaire encore à cet horizon, voire peut-être non seulement pérennité, avec maintien pour les grands pays, bien sûr les États-Unis, la Russie, nous-mêmes, qui allons garder du nucléaire, même à un niveau minimum, mais on peut craindre qu'il y ait prolifération et accroissement du nucléaire militaire chez un certain nombre d'autres pays, asiatiques en particulier, l'Asie devenant d'ailleurs, vous l'avez perçu, la zone qui sera sans doute la plus nucléarisée à l'horizon 2030, ce qui n'est pas pour faciliter, j'allais dire, la réflexion et rassurer complètement. Et donc, je me suis posé d'abord la question de savoir si le nucléaire militaire sera encore présent dans notre monde dans ces années 2025-2030. Je crois possible de répondre oui. Et dès lors, on ne peut éluder le risque d'une utilisation, me semble-t-il, de ce nucléaire militaire. C'est vrai qu'a priori, tout laisse à penser qu'une utilisation du nucléaire est désormais exclue. C'est avant tout une arme de non-emploi, une arme de dissuasion. Nous, Français, nous savons ce que ça veut dire. Non-emploi, de dissuasion, éviter la guerre. Mais on ne peut pas s'empêcher de penser, surtout si prolifération, il y avait davantage, tout dans un certain nombre d'États que l'on devine bien, qui vont essayer d'avoir l'arme nucléaire. On ne peut pas ne pas éluder la question de l'utilisation, j'allais presque dire accidentelle ou possible, de l'arme nucléaire, et dès lors, tous les scénarios les plus catastrophiques peuvent être imaginés.
Et vous soulignez d'ailleurs au détour des pages que, contrairement aussi à une idée reçue, qu'en définitive, personne ne peut utiliser l'arme nucléaire parce qu'en fait, il aurait un retour absolument dramatique, mais vous soulignez aussi qu'il y a des avantages à être le premier à l'utiliser. Cela étant, on va peut-être, de façon quand même à ne pas trop stresser nos auditeurs, ne pas trop surligner cet aspect de votre ouvrage, d'ailleurs parce qu'il n'est pas ouvert que sur ce seul scénario. Avant d'en venir à ma deuxième question, je vais quand même lire un de vos passages. Vous avez une plume très 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 alerte, qui est très agréable. Et je vous lis donc un passage qui est donc à la page 253, et qui est un peu la synthèse de ce que vous venez de dire. L'histoire de l'homme est bien l'histoire des guerres, qui trouvent leurs origines aux sources les plus lointaines de l'humanité, guerres nées, voici près de 10 millénaires, du débordement de l'espèce humaine sur un territoire non extensible. Car en fait, il y a cet aspect-là aussi, des 7 milliards d'êtres humains à l'horizon de fin du millénaire. Et donc, il faudra survivre dans cet espace.
Oui, je crois qu'en conclusion, effectivement, et vous venez de le rappeler, je crois qu'on ne peut pas ne pas regarder là aussi l'histoire. Et si bien sûr de toujours les hommes ont rêvé à la paix, non seulement rêvé à la paix, mais ont essayé de, et continuent à essayer de travailler à la paix, je pense aux organisations qu'ils ont mis sur pied pour ce faire, les Nations Unies, aux traités, nous y faisions écho tout à l'heure, traités de non-prolifération nucléaire, rêver de projets un peu fous sur la paix, je pense, je me suis intéressé un peu à tout ça, projets de paix fédérative, enfin des projets tout à fait un peu utopiques, il faut bien le reconnaître. Simultanément, force est de reconnaître que les antagonismes et les conflits sont inhérents à la nature humaine, parce que nous sommes, au moins tant que nous serons ici-bas, des hommes à la fois altruistes mais aussi égoïstes. Et que tout ça, dans un contexte de rareté, de besoin, porte des conflits qui sont consubstantiels, je pense, à notre nature humaine.
Tout à fait. Alors, maintenant, venons-en à un autre scénario, qui passe peut-être par le regard que vous portez, vous, sur la Chine et sur l'énigme de l'économie socialiste de marché, car pour l'économiste que vous êtes, j'imagine que c'est une énigme.
Oui, je suis un petit peu à continuer la réflexion d'ailleurs sur ce thème que j'ai abordé, mais de façon un peu succincte. Je suis frappé que, à l'heure actuelle, il y a une espèce de, si vous me permettez l'expression, de mondialisation de ce que j'appellerais un capitalisme d'État. Et ça s'accuse, me semble-t-il, avec la crise, la sortie ou la pas sortie des crises, ou un peu partout de par le monde, sous des modalités bien sûr variées. Le capitalisme d'État chinois n'est pas le même que le capitalisme d'État russe ou que le capitalisme d'État à Paris. Chaque peuple essaie de trouver à sa façon cette conciliation privé-État, si je peux dire, que j'appelle capitalisme d'État. Mais il y a, je crois, on peut dire, une certaine uniformisation du monde. Et c'est étonnant parce que la mondialisation, c'était une mondialisation libérale. On vient à une mondialisation d'un capitalisme d'État. Et c'est peut-être la phase dans laquelle nous sommes qu'il faudra regarder de près avec cette nouvelle modalité.
Mais le capitalisme d'État, il est quand même adossé dans une logique libérale à la liberté des peuples. Et donc, l'énigme de l'économie socialiste de marché, c'est bien cette dualité d'une logique de marché adossée à un parti unique, totalitaire, etc. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, donc, sur ce point, mais par rapport à, justement, l'histoire, hein, puisque vous le rappeliez, donc, à savoir que jamais les économistes ont pu remarquer, et les historiens encore moins, une croissance aussi forte et sur une période aussi longue, sans qu'il se passe quelque chose d'assez dramatique. La Chine est en train de démontrer, pour l'instant, l'inverse. Ça fait quand même une dizaine d'années qu'ils sont sur un taux de croissance absolument non connu jusqu'à ce jour. Et par ailleurs, ils sont devenus les premiers exportateurs, mais ils sont aussi maintenant les premiers importateurs. Donc, ils jouent l'économie de marché. Et par contre, ils ne bougent pas d'un iota sur le parti unique. Alors, comment voyez-vous, vous, la sortie là, sur ce point?
Écoutez, justement, c'est une des spécificités de ce capitalisme d'État chinois que d'arriver jusqu'à présent à conjuguer au mieux, j'allais dire, un peu ce qui pouvait paraître spécifique au capitalisme, c'est-à-dire l'initiative, la capacité de mobilisation. Et si on disait que c'est avant tout un nationalisme aussi, un nationalisme chinois, je crois que c'est Domenech
qui peut parler de ça. Oui, il y a une part, effectivement.
Et c'est un peu aussi la question qui vient après, est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça peut durer? Et certains prétendent, je n'évoque pas là parce que je n'ai pas eu un petit peu de plaisir de le faire, mais certains évoquent la fragilité finalement de cette Chine d'aujourd'hui. Est-ce qu'elle pourra, sur la longue période, continuer à mobiliser un peuple de cette dimension en le tenant corseté dans ce que nous savons et que vous évoquez? Certains pensent qu'il y a une fragilité et évoquent un scénario, je ne l'ai pas repris, mais qui serait bien sûr à regarder, de la fragilité, de l'éclatement de la Chine, oui. Peut-être sur une modalité bien sûr différente de l'éclatement de l'URSS.
Oui.
Et donc c'est là aussi quelque chose qu'il va falloir regarder.
Oui, le pire des scénarios étant l'apparition d'un régime militaire totalitaire qui serait donc une... Mais bon... Donc l'autre question, bon, évidemment, vous vous installez dans une logique d'apparition d'une nouvelle hyperpuissance, mais vous êtes toujours dans une logique qui reproduit en quelque sorte le passé, c'est-à-dire avec un monde certes multipolaire, mais avec une hyperpuissance dominante qui serait donc la Chine. Alors, l'horizon 2030, et pourquoi ne pas imaginer en tout cas aussi la force de notre scénario qui est celui de la coopération? La coopération, c'est-à-dire que c'est effectivement un schéma qui n'a pas été trop reproduit dans l'histoire, mais il y a des liens dans ce couple contre nature qui sont extrêmement forts. Et en alternative au scénario de au risque de guerre, il y a aussi peut-être la possibilité de voir naître une forme de coopération, de nouvelle intelligence, on va dire de l'homme du troisième millénaire américain et chinois.
Oui, il faut le souhaiter. Il faut les souhaiter, mais pardonnez-moi de regarder l'histoire, là encore, tout montre dans l'histoire qu'il faut, j'allais presque dire l'empire, entre guillemets, pour obtenir au mieux la stabilité, l'équilibre et la paix. Si vous regardez l'histoire de toujours, l'empire romain, etc., c'est l'empire qui a toujours, semble-t-il, apporté, un nom ou un autre, qui a toujours apporté au mieux la stabilité, l'équilibre et la paix. C'est dans cette perspective, d'ailleurs, que le monde de l'hyperpuissance américaine était finalement un monde de stabilité et de paix, de petites guerres, de petites choses. Et on peut imaginer, il faut imaginer que la Chine apporte à son tour, 2030, parce qu'elle serait l'hyperpuissance. Et si elle est l'hyperpuissance, de nouveau, une certaine stabilité, un certain ordre, une certaine paix. Parce que tout ce qui est multinational, forcément, est plus instable et plus déséquilibré, parce qu'il y a des puissances qui sont un petit peu de force équivalente, ou presque. Et donc, on a un monde qui est beaucoup plus déséquilibré, beaucoup plus instable et plus dangereux. Quand, encore une fois, on a l'hyperpuissance, les autres se tiennent à carreau, si vous me permettez l'expression. Qui aurait pu imaginer affronter les États-Unis des années 2000 ? Personne. C'est donc, on le voit bien malheureusement, j'allais presque dire, l'empire d'une façon ou d'une autre qui semble indispensable pour apporter au mieux la stabilité, je le répète, l'ordre, l'équilibre et la paix. Oui, c'est un peu pessimiste point de vue, mais c'est vrai que tout ce qui est plus multinational a du mal ensuite à s'organiser parce qu'il n'y a plus, j'allais presque dire, le fort qui impose sa loi, pour faire bref.
Mais on peut introduire quand même deux éléments, on dirait, d'antithèse qui sont notamment repris par les philosophes, c'est que c'est la perception d'aujourd'hui que l'hyperpuissance ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est quand même la grande démonstration, même si l'hyperpuissance, finalement, ce que vous dites, est un facteur pôle d'équilibre, finalement, le résultat de l'hyperpuissance américaine, ça a été la démonstration que ni sur le plan économique, ni sur le plan financier, ni sur le plan politique, l'hyperpuissance a servi quelque chose. Et donc, peut-être que le scénario, c'est celui du partage de l'hyperpuissance qui peut-être permettrait de dire que cette hyperpuissance sert à autre chose, à quelque chose. Le deuxième facteur, et peut-être j'aimerais avoir votre réflexion sur ce sujet, c'est de dire aussi c'est que on est arrivé, donc avec le 21e siècle, à l'émergence d'une opinion monde. C'est aussi une des conséquences de la globalisation. Et sur ce sujet, y compris les régimes totalitaires doivent... Alors, les régimes démocratiques, c'est peut-être d'ailleurs un de leurs points de fragilité, en tiennent extrêmement compte. Plus rien ne se fait sans avoir été sondé, et en tout cas sans être fait sous le regard de l'opinion. Mais les régimes totalitaires aussi. On le voit bien, la pression, à un moment donné, du monde sur les choix de la Chine, etc. Donc, on peut peut-être penser que ces deux nouveaux facteurs, qui sont quand même, on va dire, dans l'ordre économique mondial relativement récent, le constat de la fin de que l'hyperpuissance ne sert finalement à rien, et par ailleurs la pression de l'opinion monde, peut peut-être aussi inviter à penser que la coopération, c'est peut-être le produit nouveau du 21e siècle.
Oui, je crois qu'il faut espérer qu'on ira dans cette direction, et je le souhaite. Je le souhaite de tout cœur, bien sûr. Et je crois que la France a toujours marqué depuis, j'allais presque dire, depuis la Ve République, pour ne pas remonter plus haut. Je pense à ce qu'a dit et essayé de faire le président Chirac, d'organiser beaucoup mieux un ordre qui serait multinational. Moi, je préfère parler de plurimondial, pour bien marquer davantage encore les aspects géographiques. Multinational, ça balaie, ça écrase un peu les aspects géographiques. C'est vrai que c'est ça qu'il faut chercher à faire. Encore une fois, je ne voudrais pas que vous partiez avec l'idée que je défends l'hyperpuissance. Je constate simplement ce que l'histoire nous apporte. Mais c'est vrai qu'il faut aller dans les directions que vous suggérez, il faut y travailler. Et la France de toujours, et je pense tous les grands discours des chefs d'État français à l'ONU notamment, vont dans cette direction de l'organisation d'un nouvel ordre mondial plus multinational, plus égalitaire, etc. etc.
Pour conclure, vous direz peut-être un mot de votre co-auteur, Pascal Hortefeux, qui lui-même est professeur à l'École supérieure de commerce de Clermont-Ferrand.
J'allais dire un petit peu chez lui, si je peux me permettre, qu'a commencé la réflexion de cet ouvrage. On avait invité à des conférences dans le cadre de son enseignement, et a été un peu le creuset de la réflexion qui a amené à sortir ensemble cet ouvrage. Et donc, c'est bien un ouvrage de Pierre Pascalon et de Pascal Hortefeux qui est ici en cause.
Bien. Eh bien, écoutez, monsieur le professeur, merci. C'était donc vos convictions, vos réflexions que vous avez repris donc dans cette parution qui est extrêmement intéressante. Hier la crise, demain la guerre, avec un point d'interrogation, j'insiste. La crise va-t-elle amener le monde au bord du gouffre ? Une réflexion qui est assez nouvelle, mais qui interpelle. Un ouvrage donc paru chez L'Harmattan, 254 pages, 28 euros. Merci pour tout, en tout cas, ça vaut son prix.
Merci.
Merci à vous, monsieur le professeur.